Donc bienvenue pour cette table ronde intitulée « Quelle confiance aux banques centrales ?». Je crois que s'il avait fallu anticiper l'actualité de cette question...
Cette conférence « Quelle confiance aux banques centrales ?» est vraiment d'actualité puisque la semaine dernière, nous avons eu la décision de la Fed que vous avez tous suivi avec les implications que ça a notamment, non seulement pour la gestion monétaire aux États-Unis, mais également pour l'ensemble du monde compte tenu effectivement du poids qu'a cette institution dans la finance internationale. Alors les banques centrales, je dirais historiquement leur rôle dans les politiques monétaires sont bien connus. Depuis quelques années, bien évidemment, leur rôle s'est accru, notamment dans certains pays qui jusqu'à une date récente ne disposaient pas au niveau des statuts des banques centrales du statut de banque indépendante. Et la question, naturellement, est devenue encore plus actuelle avec le déclenchement de la crise des subprimes et notamment la mise en place de ce qu'on appelle les mesures non conventionnelles qui ont élargi le rôle des banques centrales par rapport, je dirais, un peu aux visées traditionnelles telles qu'on se les représentait autrefois. Donc de tout cela, nos interlocuteurs vont vous entretenir. Alors je les présente brièvement, en commençant par l'alphabétique, Michel Aglietta. Je ne sais pas si je dois présenter Michel Aglietta, tant ses travaux en macroéconomie financière et son connaissance, je dirais, de ce domaine est connue de tous. Je cite pour mémoire que ses deux derniers ouvrages, que j'ai personnellement tout à fait bien appréciés, la crise et la rénovation de la finance, paru l'an dernier, et cette année, en début d'année, sur les hedge funds. Entrepreneur ou requin de la finance. Pierre Jaillet, directeur des études et des relations internationales à la Banque de France, qui sera un peu le représentant d'une institution, Banque centrale. Et Jean-Paul Paulin, qui est professeur de sciences économiques à l'Université d'Orléans et qui suit depuis très longtemps les problèmes liés au financement de l'économie et notamment les activités bancaires. Alors pour rythmer un petit peu cette table ronde, trois temps. En sachant que, comme au temps du SME, tout ça est stable mais ajustable en fonction naturellement de la nature des interventions. Un premier temps que l'on va qualifier autour du rôle des banques centrales dans un passé extrêmement récent. En gros, on entend qu'il y a assez ou pas assez dans la gestion de la crise et même un petit peu en amont de la crise. Un deuxième temps qui sera plutôt consacré à la place que l'on veut donner aux banques centrales dans la nouvelle régulation financière internationale. Vous avez peut-être été attentif ce matin au propos de Michel Pandessus, ancien directeur du FMI, qui évoquait la nécessité, selon lui, d'envisager à moyen long terme une banque centrale mondiale. Peut-être que cette question sera évoquée. Et puis, finalement, en liaison aussi avec cette question, le problème de la coordination internationale, un mot qui est revenu aussi ce matin dans la conférence sur la gouvernance, et qui pose un peu le problème donc, de la place qu'ont précisément les banques centrales dans, je dirais, ce maillage d'institutions internationales qui pour l'instant coopèrent, mais qui ne font peut-être pas encore suffisamment système au point de pouvoir éviter de nouvelles crises financières. Alors pour lancer la table ronde, sur au moins le premier point, je vais d'abord donner la parole au représentant de l'institution, Pierre Jaillet, qui va nous brosser rapidement un petit peu la manière dont il voit les choses. C'est-à-dire, est-ce que finalement les banques centrales ont eu un rôle décisif dans la crise? Quand j'entends rôle décisif, c'est en amont. C'est une question qui fait débat. Y a-t-il eu de la part de la gestion antérieure à la crise des subprimes, notamment par le quantitative easing qui déjà à ce moment-là se faisait jour, y a-t-il eu, je dirais, de la part des banques centrales, une gestion appropriée? En ont-elles fait assez ou au contraire n'en ont-elles pas fait assez?
Merci Monsieur Simler. Je vais d'abord utiliser le disclaimer habituel, c'est-à-dire que ce que je dirai n'est pas forcément contradictoire avec les points de vue de la Banque de France et de l'Eurosystème, mais n'est pas forcément non plus l'exacte position de cette institution. Donc je vais réintroduire ce sujet. J'ai bien compris, on se situe en amont de la crise essentiellement, donc on abordera dans les deux autres moments. Vous avez dit que peut-être la répartition d'ailleurs serait ajustable. D'ailleurs, le système SME était aussi instable que stable, et donc peut-être ajustable parce qu'il était instable. Le sujet, c'est un beau sujet, quelle confiance aux banques centrales. On avait une devise à une époque dans le corps de l'inspection, de la Banque de France, qui était la confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc, je crois que ça renvoie à l'idée que la confiance liée à l'indépendance nécessite ce qu'on appelle le accountability ou la responsabilité vis-à-vis des mandants. Et donc, il faut effectivement rendre compte. Et donc, c'est une occasion de rendre compte, évidemment, pas devant les institutions officielles, mais devant l'opinion, le public et bien sûr le corps enseignant, les étudiants et qui participent à ces journées. Alors peut-être qu'il... je vais parler trop longtemps, mais peut-être qu'il faut revenir brièvement sur le contexte historique de l'émergence des banques centrales indépendantes, parce qu'on a un petit peu oublié. Ce contexte a été variable. Dans le cas d'Allemagne, clairement, c'était la suite de l'hyperinflation allemande qui a donné lieu à une volonté politique très forte d'avoir une banque centrale indépendante, chargée d'une mission très claire qui était d'assurer la stabilité des prix. On sait que dans les années 60-70, l'inflation, on l'a oublié, était de l'ordre de 10, 15, parfois 20%. Et donc là aussi, ça conduit les politiques à chercher les moyens de contrôler cette inflation sans sacrifice de croissance. Il y avait en même temps un soubassement théorique que mes amis de droite connaissent mieux que moi, la littérature de Barrow Gordon sur l'incohérence temporelle, la littérature de Keaton Prescott sur l'idée de donner à un banquier central conservateur, entre guillemets, la fonction régalienne de conduite de la politique monétaire, etc. Et donc, tout ça a donné lieu à finalement un modèle qui est devenu un peu le modèle dominant, celui où des banques centrales, avec des statuts d'indépendance variables, mais grosso modo qui sont devenus très indépendants du point de vue juridique, se sont vus déléguer une responsabilité forte qui était la conduite de la définition et la conduite de la politique monétaire, à côté d'autres politiques qui, elles, étaient clairement du ressort politique. Alors, je ne dirais pas que ce modèle a été complètement consensuel, mais en tout cas, c'était un modèle qui a été assez général. Alors, donc le mandat ensuite, est-ce qu'il a été respecté? Est-ce que l'objectif a été atteint? Alors, je prendrai le cadre européen. Clairement, lorsque le traité de Maastricht a été négocié et puis ratifié, il y avait un clair consensus politique de l'ensemble des pays européens pour dire que le mandat, l'objectif prioritaire de la Banque Centrale Européenne, de l'eurosystème qui regroupe l'ensemble des banques centrales nationales et de la BCE, c'était la stabilité des prix. Sous réserve de, etc., et vous connaissez la formule, il y avait effectivement d'autres types de préoccupations, mais clairement, l'objectif prioritaire, c'était la stabilité des prix. Et de ce point de vue-là, le mandat est respecté. Si on prend l'évolution des prix des biens et services depuis la création de l'Union monétaire, on est effectivement en dessous de l'objectif qui a été défini comme 2, voire en dessous de 2%, proche de 2%, mais en dessous de 2%. Et quand on regarde finalement l'ensemble des autres banques centrales, on a des nuances. Dans le cas des États-Unis, la question de l'emploi, par exemple, est mise pratiquement au même niveau que celui des prix. Mais au Japon ou dans d'autres banques centrales, on a quand même cette idée que finalement, le fait de maintenir la stabilité des prix est un objectif soit prioritaire, soit extrêmement important, mais qui en tout état de cause ne nuit pas à l'atteinte des autres instruments. Et donc cet objectif a été atteint, il a été atteint partout. Et je dirais même qu'il a été atteint à tel point qu'on peut se poser un certain nombre de questions. Et j'en viens maintenant finalement aux trois caveats et trois points d'interrogation. Le premier, c'est quels ont été les facteurs de la désinflation forte que l'on a connue à partir des années 80. Est-ce que c'est lié à l'adresse et à la dextérité particulière des banquiers centraux? Sans doute en partie, enfin je l'espère, mais sans doute pas uniquement à cause de ça. On sait qu'il y a eu un phénomène de mondialisation avec un écrasement sans doute à la baisse d'un certain nombre de prix lié au fait qu'un certain nombre d'acteurs majeurs sont intervenus sur le marché mondial, notamment la Chine, mais pas seulement, qui ont sans doute pesé fortement sur l'inflation dans un monde où le commerce globalisé, où donc la comparaison des prix et la concurrence devenaient de plus en plus fortes. Ça, c'est le premier point. Donc, là-dessus, je dirais qu'il faut rester relativement agnostique. Sans doute, les deux ont joué. Deuxième question, est-ce qu'on mesure bien l'inflation ? Une autre façon de poser la question, c'est de dire, l'objectif de stabilité des prix est-il bien calibré ? Et là, effectivement, il y a un vrai sujet qu'on abordera peut-être dans la deuxième partie de façon plus précise, mais qui est de dire, on peut effectivement bien maintenir la stabilité des prix des biens et services mesurés par l'indice des prix à la consommation mensuel de l'INSEE, etc., pour le cas de la France, ou l'indice harmonisé des prix à la consommation dans le cadre européen, ou le même type d'indicateur dans l'ensemble des pays des zones monétaires, et en même temps, peut-être ne pas capter l'ensemble de ce qu'on appelle la stabilité des prix au sens, dans un sens plus large, où un certain nombre d'économistes l'ont évoqué. Je pense en particulier à un économiste comme Charles Goodhart, qui est un économiste anglais que tout le monde connaît, et qui a dit, après tout, dans un discours, ce qui intéresse finalement les ménages du point de vue de la stabilité monétaire, c'est qu'avec leurs revenus, ils puissent maintenir un pouvoir d'achat qui ne soit pas uniquement en termes de biens et de prix d'actifs, mais en termes de prix de biens et services, mais également en termes de prix d'actifs. Et donc c'est cette notion de pouvoir d'achat d'ensemble qui, actuellement, conduit à se poser un petit peu la question de peut-être moins est-ce que l'indice des prix est bien calculé, parce que ça je pense qu'il n'y a pas trop de questions là-dessus, mais peut-être est-ce qu'il ne faudrait pas, à côté de l'indice des prix des biens et services, se préoccuper d'autres choses, qui est peut-être effectivement d'un certain nombre d'indicateurs de prix d'actifs qui concernent l'immobilier, les actions, voire d'autres, et qui ont une importance, bien sûr, du point de vue de la politique monétaire, dans la mesure où celle-ci vise à maintenir le pouvoir d'achat des agents économiques, mais également, et on l'a vu de plus en plus, dans le cadre de la stabilité financière. Troisième question, précisément, est-ce que, et ça c'est une question centrale, est-ce que la stabilité monétaire garantit la stabilité financière ? Et la réponse est clairement non. Elle est une condition, mais pas une condition suffisante. Et ce que l'on a observé avant la crise et les tensions qui ont conduit à cette crise, puis le déclenchement de cette dernière et son déroulement, ont bien montré qu'on pouvait être dans une zone de stabilité monétaire, je dirais même pas apparente, de véritable stabilité monétaire, et puis avoir effectivement des germes, puis des signes, puis le développement de risques qui conduisaient à une instabilité financière forte et puis à une crise financière. Et donc, au bout du compte, l'idée, c'est, un, il faut réinterpréter, relire, clarifier sans doute le mandat des banques centrales dans un sens plus extensif que celui auquel on a été habitué, je dis, ces 10, des 20 dernières années. Donc là, il y a une vraie question qui n'est pas encore résolue, mais qui est complètement ouverte, sans aucun tabou et... Voilà. La deuxième conclusion provisoire que j'aurais, c'est qu'il faut sans doute rehausser et mettre au premier plan les objectifs et les préoccupations de stabilité financière. Et on verra peut-être dans la deuxième partie quelles sont la façon de formaliser ces objectifs, ce qu'on appelle macro-prudentiels, hein, qui sont beaucoup plus larges que les objectifs politiques monétaires, et avec la question, à mon avis, centrale, qui est avec quel type d'instrument. Et puis, sans doute aussi, et là, il faut compléter précisément et améliorer la gamme des instruments, parce que une des leçons que l'on peut tirer de la crise financière, c'est que précisément, on était peut-être en pénurie de certains types d'instruments pour gérer, prévenir d'abord, et puis gérer ensuite la crise financière.
Merci Pierre Jaguet. Nous allons enchaîner peut-être avec la vision qu'a Michel Aglietta sur le rôle des banques centrales en amont et pendant la crise.
Oui, en amont, pour aller à la suite de ce que dit Pierre, il y a un paradoxe d'une certaine manière sur les banques centrales. C'est-à-dire qu'il voulait expliquer à juste titre qu'on a construit une doctrine dans laquelle les banques centrales s'occupent que de la stabilité des prix définie par un indice de prix conventionnel, hein, qui exclut les prix des actifs notamment, et rien d'autre. Alors que c'est tout l'inverse de leur création. Les banques centrales ont été créées pour la stabilité financière. C'est-à-dire plus exactement des banques comme la Banque d'Angleterre, qui étaient déjà des banques, mais qui étaient essentiellement des banques de l'État, qui finançaient la dette publique, ont progressivement au cours du 19e siècle, au cours de la seconde partie du 19e siècle, devenu les banques des banques. C'est-à-dire des banques dont l'objectif était d'assurer la stabilité du système financier vis-à-vis des crises. On ne parlait absolument pas de stabilité des prix à cette époque-là. Hein. Il s'agissait de maintenir un prix,
le prix de l'or. Alors, mais les prix étaient extrêmement volatiles, beaucoup plus volatiles qu'ils ne l'ont été après la guerre, hein, dans le cadre de ce qu'on appelait le cycle des affaires. Donc, on a un mandat à partir des années 80 qui est totalement opposé à celui qui était les banques centrales au 19e siècle, dans le moment lorsqu'elles se sont consolidées. Donc, le problème de revenir évidemment à un objectif de stabilité financière, on a fait sortir quelque chose qui est rentré véritablement en catastrophe, c'est-à-dire le fait que les crises n'ont pas été assumées par les banques centrales du fait de leur postulat. Mais ce postulat est dans la doctrine. Pour pouvoir admettre que les banques centrales sont indépendantes du pouvoir politique et, disons, de l'ordre démocratique, du contrôle démocratique d'une certaine manière, il faut admettre que leur objectif n'est pas en arbitrage avec les autres objectifs politiques. Et c'est la théorie économique, une certaine théorie économique qui le dit. C'est ce qu'on appelle la théorie de la dichotomie des valeurs, des grandeurs nominales et des grandeurs réelles. Si en effet les banques centrales n'influencent que les grandeurs nominales, elles ne mettent pas en question la croissance potentielle, l'équilibre de plein emploi, etc. par leur action. Elles interviennent uniquement sur la variable prix. Mais pour admettre ça, il faut supposer que les marchés financiers sont efficients. Et donc les banques centrales étaient prises dans une doctrine qui était une doctrine générale, plus large d'ailleurs, dans laquelle elles ont été prises, Greenspan comme les autres, que de toutes les manières, les marchés financiers surtout ajustent, et que les chocs purement financiers n'ont pas à s'en occuper, dans la mesure où les marchés qui se développaient avec toute la sophistication de l'innovation financière, étant efficients, ils s'occupaient de ça. Si jamais il y avait un choc très important, alors on faisait à ce moment-là, on regardait les conséquences ex post des chocs. Hein, et donc Greenspan mettait de la liquidité, plus qu'il n'en fallait par rapport à sa fonction objectif, hein, lorsqu'il y avait une baisse boursière formidable, comme il y en a eu par exemple en 2000-2001. Mais la doctrine a toujours été celle-là, hein, c'est-à-dire que dans la mesure où la finance s'occupe d'elle-même, nous n'avons pas à intervenir d'un point de vue doctrinal et définir une doctrine de stabilité financière. Donc évidemment, à partir du moment où ça est mis en cause, la question de l'indépendance se repose, hein, puisque justement, la banque centrale redevient la banque des banques, elle apprend à faire des choix qui concerne la structure financière et derrière elle, évidemment, les évolutions d'économie réelle. Et donc, l'indépendance, la séparation du nominal et du réel n'est plus possible. Donc, ça, c'est évidemment un problème de fond. Peut-être qu'on en reparlera d'ailleurs dans les points suivants. Pour ce qui a été fait dans la crise, alors moi, je dirais deux choses. Dans la crise elle-même, c'est-à-dire dans les moments chauds de la crise, les banques centrales ont très bien joué leur rôle de prêteur en dernier ressort. C'est-à-dire qu'elles ont maintenu un marché monétaire qui se gelait complètement. Et dès le mois d'août 2007, de ce point de vue-là, dès le mois d'août 2007. Et étant donné l'incroyable interdépendance des risques dans la crise, très supérieure à celle des interventions en dernier ressort qui s'étaient produites, par exemple en 2001, lorsqu'il y a eu le 11 septembre, la liquidité a manqué. Les banques centrales sont intervenues pendant une semaine, elles ont rétabli la situation. En 98, vous avez eu la crise liée à la faillite du hedge fund LTCM, ça a mis 3 semaines, grosso modo, et hop, les marchés sont repartis, les anticipations sont redevenues positives, etc. Là, non, hein. Vous avez eu véritablement une inquiétude générale du fait de l'inextricable interconnexion des risques qui se sont produits, ce qui fait que les banques centrales ont été amenées à inventer des manières d'injecter de la liquidité dans le système financier. Elles ont fait, en particulier les banques centrales anglo-saxonnes, ont fait énormément d'innovations en prêtant à plus long terme, en prêtant à des acteurs qui n'étaient pas des banques, etc. Donc ça, et de ce point de vue-là, elles ont joué leur rôle. Mais elles ne pouvaient pas se remplacer les États, car derrière ça, il y avait des risques de crédit, il y avait de l'insolvabilité latente, et les États ne se sont pas donné les moyens, hein, en particulier, de sortir les créances douteuses des banques, de les mettre dans des structures à part et faire fonctionner les banques, contrairement à ce qu'avaient fait les Suédois au début des années 90, hein, lorsqu'ils avaient très bien géré une crise financière formidable pour eux, puisque ça faisait disparaître tout le système bancaire, hein, toutes les grandes banques étaient en faillite. Donc, c'est les États qui ont mis beaucoup trop de temps à réagir et qui, en fait, n'ont pas bien réagi du tout, hein, puisque nous sommes toujours dans un marasme énorme en termes de l'immobilier dans de nombreux pays, et vous avez des cadavres dans les placards des bilans bancaires qui vont revenir si les prix des actifs ne remontent pas d'ici un an ou deux. Hein. Donc ça, c'est un problème des États, hein, et pas des banques centrales. Alors, pour ce qui est maintenant de la sortie de crise, elles ont manifestement du mal vis-à-vis de la sortie de crise. Pourquoi ? Ben, parce qu'une crise de ce type-là, c'est une crise, disons, dans laquelle il y a ce qu'on appelle les déflations de bilan du secteur privé. C'est-à-dire le secteur privé est amené à se désendetter lorsque vous n'avez plus de croissance ou que la croissance est très basse, c'est un problème qui est un véritable casse-tête. Parce que pour vous désendetter, il faut progressivement faire des revenus, des profits, et progressivement, si vous voulez, les affecter à la réduction des dettes. Et si, quand vous faites ça, vous ne faites pas de dépenses, vous n'avez pas de profits, ou pas de revenus pour les ménages, et donc le processus est extrêmement long. C'est très connu. Lorsque vous avez des crises bancaires de très grande ampleur, il faut pratiquement une décennie pour sortir de la situation et retrouver des bilans stables. Alors, pendant ce temps-là, le secteur privé ne fonctionne pas correctement. Et en conséquence, les banques centrales, disons les pouvoirs publics, se trouvent suivant le dilemme. Je relance la politique budgétaire, mais ça ne suffit pas pour faire de la croissance, donc je fais monter ma dette par rapport au PIB, puisque je n'arrive pas à lancer la croissance par un déficit budgétaire. Cela dit, le déficit budgétaire, dans le premier temps, il a servi à quelque chose. Il a évité l'effondrement total de l'économie qui allait en dépression. Mais il n'a pas fait plus, il ne pouvait pas faire plus, hein, d'une certaine manière, sauf à être beaucoup plus audacieux. Alors, beaucoup plus audacieux, c'est la Chine. La Chine a fait un plan de relance de 12% du PIB, c'est énorme, alors qu'en Europe, si vous voulez, le plan de relance ex ante, c'est-à-dire le montant de dépenses qu'on a injecté discrétionnairement pour pouvoir faire du déficit, pour pouvoir engager des dépenses publiques pour remplacer les dépenses privées absentes, était de 1,1% du PIB dans l'Europe. Et on a, au total, quand on regarde ce qui se passe 2009 sur 2008, vous avez 4,6% d'accroissement du déficit. C'est-à-dire que l'essentiel de la hausse du déficit n'est absolument pas lié au plan de relance, il est lié au fait que l'économie a baissé considérablement, et par conséquent, est liée à la récession. Et maintenant, on fait de l'austérité, on y reviendra peut-être, mais c'est absurde, hein, je veux dire. Faire de l'austérité alors que la cause de la montée du déficit n'est pas la relance, hein, mais la récession, risque de créer, une situation encore pire. Du moment où tout le monde fait de l'austérité. Alors, les banques centrales, dans ce cadre-là, elles font baisser le taux d'intérêt à zéro. Alors, elles l'ont fait. Mais quand le taux d'intérêt est à zéro, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous tombez sur de grosses difficultés. En effet, ça veut dire quoi, un taux d'intérêt à zéro? Ça veut dire que le taux d'intérêt que la banque centrale aurait mené si elle avait pu, avec sa fonction d'objectif habituel, en regardant où en était l'économie, où en est le chômage, etc. Hein? Pour les États-Unis, le calcul fait moins 4%. C'est-à-dire que le taux d'intérêt est virtuel. Le taux d'intérêt est virtuel. Hein? Le taux d'intérêt qui serait optimal aujourd'hui est négatif. Et donc, ce que fait la Banque centrale, c'est qu'elle ne peut pas faire ça, parce qu'elle a la liquidité ultime. Elle donne une option aux gens. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez n'importe quel actif qui n'est pas de risque particulier, vous pouvez le vendre à la banque centrale et obtenir du cash, hein, gratuitement. C'est ça le quantitative easing. Derrière le quantitative easing, il y a une nécessité absolue qui est celle que la banque centrale, elle émet la liquidité ultime et elle doit jouer son rôle de contrepartie de n'importe qui veut lui vendre des actifs pour obtenir de... Alors évidemment, elle va l'étendre, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Elle l'étend à des catégories d'actifs plus importantes pour essayer de faire baisser les taux à long terme. Donc, elle ne peut rien faire sur les taux à court terme, elle sait qu'elle doit absolument relancer l'économie, elle est devant une difficulté formidable, c'est que le crédit n'est plus sensible au taux d'intérêt parce que les gens se désendettent. Hein. Donc, ce canal ne marche plus, qui est le canal principal de la politique monétaire, que faire? Et donc, elle va tenter de jouer sur les fameux prix des actifs financiers en achetant des obligations d'État, essayant de faire baisser le taux d'intérêt par conséquent de ses obligations, en disant à ce moment-là aux agents privés, ben regardez, vous allez réaménager votre portefeuille, puisque le rendement que vous avez sur les obligations d'État a baissé, allez acheter. Disons, votre boulot, c'est de diversifier de votre portefeuille. Donc, vous allez certainement acheter des titres privés, hein, et donc, à ce moment-là, vous ferez augmenter les prix des actifs, hein, les cours des actions, en les obligations, les prix des obligations privées, etc. Et puis, on espère qu'après que ça, ça suffira à faire une demande et l'économie repartira un peu plus. Ouais. Sauf que ce n'est pas ça qui va se faire, fondamentalement. Car si c'était ça, on n'irait pas très loin. Mais donc, il y a l'arme secrète qui est derrière. C'est-à-dire, si les gens qui détiennent de l'argent, c'est-à-dire les investisseurs, et puis ceux qui font de l'arbitrage dessus, c'est-à-dire les hedge funds et les banques d'affaires, font de l'arbitrage, mais ils ne vont pas dire la chose. On nous donne du cash gratuitement. Ce que je vais faire, c'est évidemment acheter des actifs à l'étranger. Car à l'étranger, les rendements sont bien plus élevés qu'aux États-Unis, pour n'importe quoi, pour les actions, pour les acteurs privés, etc. C'est bien supérieur d'investir aujourd'hui au Brésil, en Inde ou en Afrique du Sud, que d'investir aux États-Unis. En conséquence, c'est la baisse du dollar, évidemment, qui est recherchée derrière ça. Et donc, voilà où on tombe sur le problème, on reviendra sur la troisième partie, c'est que si c'est le dollar qui baisse, c'est évidemment la possibilité d'une nouvelle forme de crise, d'éclatement de bulles dans des pays émergents maintenant, hein, avec la conséquence très grave pour ceux-ci. Donc ils n'en veulent pas, et d'où cette idée de guerre d'échange larvée dans laquelle nous sommes, avec la recherche de contrôle de change pour éviter ça. Donc ce que fait finalement la Fed, compte tenu de l'impossibilité d'activer bien les canaux aux États-Unis, elle risque d'entraîner, si vous voulez, une situation d'économie mondiale qui est la moins susceptible de créer des compromis. Et donc, c'est ça le gros problème du quantitative easing.
Jean-Paul Poulin, votre regard.
Merci. Bien, ben les deux précédents intervenants ont dit, je suis totalement d'accord avec ça, qu'en effet, les banques centrales avaient parfaitement répondu à leur mission. Ce n'est pas souvent ce qui se dit, puisqu'on accuse beaucoup M. Greenspan d'avoir eu une politique monétaire exagérément laxiste jusqu'au milieu des années 2000, et que c'est au fond ça qui aurait nourri la crise financière. C'est un avis qui est souvent partagé. C'est un avis qu'on retrouve de plus en plus, d'ailleurs, sous la plume des uns et des autres, et qui, je crois, a d'abord l'inconvénient de démarquer, de pardonner, au fond, au système bancaire ses errements. Or, ce qui vient d'être dit, et encore une fois, je suis parfaitement d'accord avec ça, c'est que les banques centrales avaient une mission, essentiellement le contrôle de l'inflation, accessoirement la régulation de l'activité économique, et qu'elles ont fait ça très bien, y compris la Fed. La question, en effet, c'est que peut-être que cette mission était insuffisante, on le réalise aujourd'hui, mais en réalité, il y avait déjà, dès le début des années 2000, une question posée à propos de « faut-il que les banques centrales s'intéressent au prix d'actifs ?» C'était même une question relativement à la mode dans les années 2000, 2001, 2002, et j'ai même fait faire d'ailleurs une thèse sur cette question, qui a reçu le prix de la Banque de France. Et donc, cette question était dans l'air. On y répondait, et alors pas seulement Montésar, mais aussi Bernanke, répondait non, c'est pas une bonne idée, parce que quand on fait des simulations avec des modèles qui étaient déjà relativement sophistiqués, eh bien on s'aperçoit que maîtriser les prix d'actifs avec le taux d'intérêt, c'est pas possible. Et de fait, maîtriser les prix d'actifs ou les bulles de crédit avec le taux d'intérêt, ça n'est pas possible. Donc là, il y a un vrai problème qui est que les banques centrales, non seulement n'avaient pas la mission de contrôler les prix d'actifs, de contrôler ne s'était pas donné comme mission le contrôle des agrégats de crédit ou des prix d'actifs, où on ne leur avait pas donné,
mais de surcroît, elles n'avaient pas l'instrument qu'il fallait pour le faire. Et je le dis d'autant plus volontiers qu'aujourd'hui, il y a une sorte de retour vers les agrégats. La BRI, d'ailleurs, n'avait jamais renoncé à cette idée que les agrégats de crédit, c'était important et que peut-être, en allant un peu vite en besogne, en s'intéressant à la règle de Taylor et ce genre de choses. Et puis, la Banque Centrale Européenne vient de publier un très gros bouquin, tout à fait indigeste d'ailleurs, mais qu'il faut interpréter comme une sorte de défense du pilier monétaire de la BCE. La BCE, dont on connaît les conditions de naissance, la BCE était au fond la seule banque centrale dans les pays développés à continuer à s'intéresser, ou disait qu'elle continuait à s'intéresser à l'agrégat monétaire, et au fond, on trouvait ça un peu désuet, et on se demandait d'ailleurs si c'était bien vrai ce qu'elle racontait. Aujourd'hui, d'une certaine façon, la BCE triomphe en disant, vous voyez, il y avait dans l'évolution de la masse monétaire, dans l'évolution du crédit, des informations qui pouvaient être utiles. Si on les avait exploitées, au fond, on aurait agi différemment. Alors, je crois en effet que les agrégats de crédit, c'est probablement quelque chose d'important et à regarder. Cela dit, ça n'empêche nullement que ça ne remet pas en cause le fait que contrôler les agrégats de crédit, contrôler une bulle de crédit ou une bulle de prix d'actifs avec les taux d'intérêt, c'est certainement pas possible. En tout cas, ça, si on le faisait, on aurait une contradiction entre l'objectif de contrôle intérieur et l'objectif de contrôle des prix d'actifs qui serait extrêmement dangereux pour la stabilité de l'économie. Et c'est d'ailleurs ce qui apparaissait dans les simulations dont je parlais, et notamment celle de Bernanke à l'époque, c'est-à-dire tout début des années 2000, ou même peut-être fin des années 90. Bon, première chose. Deuxième chose, les banques centrales dans la crise, en effet, elles avaient les moyens d'agir pour arrêter la crise de liquidité, puisque cette crise financière était essentiellement une crise de liquidité. Elles l'ont fait tout de même avec des actions qui sont, comme on l'a dit, non conventionnelles, et qui donnent aux banques centrales une responsabilité qui est quand même un peu écrasante. Quand j'ai entendu dire par un bon auteur, Buiter, que les banques centrales devaient se conduire comme des teneurs de marché en dernier ressort, franchement, j'ai du mal. Le rôle d'une banque centrale, c'est sans doute, en effet, d'intervenir comme prêteur en dernier ressort. Ça a été théorisé de façon extrêmement précise et tout à fait convaincante par des montagnes de publications. En revanche, dire que les banques centrales doivent être des teneurs de marché en dernier ressort, c'est dire au fond que les banques centrales doivent être les béquilles de fonctionnement des marchés financiers, et ça, pour le coup, je trouve que c'est leur donner une mission qui d'abord est en effet fait la preuve que les marchés ne sont pas efficients et fonctionnent de façon déséquilibrée. Et puis, d'autre part, c'est leur donner, sans d'ailleurs qu'elles aient reçu mandat pour ça, c'est leur donner une responsabilité que je trouve personnellement très excessive. Elles ont fait ça, et puis elles ont été, effectivement, elles sont intervenues, une banque centrale, normalement, ça intervient sur le marché monétaire. Ça intervient sur la partie courte des marchés de l'argent. En l'occurrence, elles ont poussé beaucoup plus loin le bouchon et elles interviennent aujourd'hui sur la partie longue pour en effet maîtriser la structure par terme des taux d'intérêt, bref, les taux longs qui ne baisse pas comme on le souhaiterait, afin de provoquer cet effet de richesse et sans doute aussi cet effet de taux de change dont parlait Michel à l'instant. Donc, quand on fait ça, il faut voir que là aussi, on prend une responsabilité qui est très grande. Lorsque la BCE va acheter de la dette grecque, ou lorsque la BCE achète tel ou tel type d'actif, va acheter tel ou tel type d'actif, ben c'est clair qu'il y a une distorsion qui se fait. Par exemple, les banques centrales ont souhaité intervenir à un moment donné, ou la BCE notamment, sur le marché des covered bonds, c'est-à-dire, au fond, ces actifs titrisés, je pense titrisés pour le coup de bonne façon, puisque les covered bonds, ce sont des obligations qui sont émises contre des actifs qui restent dans le bilan des banques. Mais il se trouve que ces covered bonds, tous les pays ne les émettent pas. Tous les systèmes bancaires ne les émettent pas. Et donc, pour les banques centrales, pour la BCE en l'occurrence, qui s'est sérieusement posé le problème, intervenir sur les covered bonds, c'était avantager certains systèmes bancaires contre d'autres. Intervenir sur telle ou telle dette publique, c'est effectivement intervenir dans un domaine, sur un domaine de compétence qui n'est pas celui des banques centrales. Donc, il y a là une vraie difficulté, de même que si demain, ceci peut-être nous servira de transition avec le point qui suit, si demain on donne aux banques centrales de nouveaux instruments pour en effet poursuivre l'objectif de stabilité financière à côté de son objectif traditionnel de contrôle des prix et de régulation de l'activité économique, si on leur donne ces outils, bien, ça veut dire que les banques centrales vont manier de nouveaux instruments. Avec quel mandat? Avec quel objectif? Selon quelle modalité? De façon discrétionnaire ou au terme de règles? Répondre à ces questions, c'est dire que à ce moment-là, on demande aux banques centrales, on les investit de missions qui n'étaient pas prévues, qui n'étaient pas les leurs jusqu'à présent. Et ceci, effectivement, pose une vraie difficulté. Ça pose une difficulté je peux prendre la question posée. Peut-on faire confiance aux banques centrales? De deux façons, comme on est en train de le faire, c'est-à-dire est-ce que les banques centrales ont fait correctement leur job? Est-ce qu'elles ont les instruments de leurs objectifs? Est-ce qu'elles ont manié les instruments comme on pouvait l'attendre? C'est une première façon de prendre les choses. Je peux prendre aussi la question d'une autre façon. Est-ce qu'on a le droit de laisser toute liberté aux banques centrales pour prendre n'importe quelle responsabilité ou pour s'arroger n'importe quelle compétence. Dès lors que les banques centrales sont indépendantes, il y a effectivement, comme le disait Pierre tout à l'heure, un problème d'accountability. Il faut qu'elles rendent compte. Elles ont un mandat. Il faut qu'on puisse savoir si, oui ou non, elles remplissent correctement ce mandat. On ne peut pas laisser les banques centrales, alors évidemment il y a la crise, mais on ne peut pas laisser aux banques centrales le soin de se découvrir des missions, même dans des circonstances exceptionnelles, sans qu'elles en aient été investies et sans qu'on ait les instruments de ce contrôle.